Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chère géométrie spectrale.
Bonjour à tous. Donc là, dans les deux dernières séances, je vais parler de trous spectrales, des graphes réguliers aléatoires, graphes réguliers. Aléatoire, et c'est des travaux. Je vais parler de l'approche qui a été développée par Joël Friedman des travaux qui ont commencé il y a 30 ans et puis qui ont abouti il y a une vingtaine d'années. Et ça sera des graphes. Alors, dans les cours précédents, quand je parlais de graphes réguliers, le nombre de voisins, je le notais Q plus 1. Parce que Q, c'était... En analyse harmonique, c'est pratique de travailler avec le paramètre Q. Et dans les travaux sur les graphes aléatoires, le degré, il est souvent noté D. Donc je pense que j'utiliserai les deux, alternativement les deux notations. D, c'est Q plus 1. Voilà, donc ce qu'on a vu, pour l'instant, on a travaillé avec des... Et donc, ça va nous prendre les deux dernières séances, et ça peut être vu, si on veut, comme une sorte de publicité pour le cours de l'an prochain, ou l'année prochaine, je pense parler de choses similaires, mais pour des surfaces hyperboliques aléatoires. Mais ça nous prendra déjà plusieurs séances de dire ce que c'est qu'une surface hyperbolique aléatoire, alors que pour un graphe, je vais parler de plusieurs modèles aléatoires qui sont différents, mais qui sont tous assez simples à décrire. Donc on avait pas mal parlé du spectre de la matrice d'adjacence. On avait dit que donc c'est pour des graphes finis, et le spectre de la matrice d'adjacence, il est compris entre moins Q plus 1 et Q plus 1. Celle-là, c'est la valeur propre triviale qui correspond aux fonctions propres constantes. Et puis il y a un intervalle un petit peu particulier, hein, qui est moins 2 racine de Q, 2 racine de Q, qui s'appelle le spectre tempéré. Et qui correspond, comme on avait écrit des valeurs propres, hein, comme on avait fait un changement de paramètre spectral, les valeurs propres qu'au départ on appelle lambda, on peut les réécrire en termes d'un paramètre S. Et donc le spectre tempéré, ça correspond à ici, S est réel. Et à l'extérieur de cet intervalle, S est imaginaire pur. Alors, à la fin des années 80, hein, Lubotsky et Philippe Sarnak ont introduit la terminologie de graphe de Ramanujan. Et donc la définition d'un graphe de Ramanujan, c'est on dit qu'un graphe régulier est un graphe de Ramanujan si à part les valeurs propres, lambda 1, c'est la valeur propre triviale, et puis les autres, on va les appeler lambda 1, lambda 2, lambda n, et grand n, c'est le nombre de sommets. Donc on va dire qu'un graphe est un graphe de Ramanujan si toutes les autres valeurs propres en valeur absolue, elles sont plus petites que 2 racines de Q. Et en fait, à la fois Lubomirski, Philippe Sarnak et Margulis avaient démontré... Alors, c'est pas du tout clair qu'il en existe une infinité. Il y a le graphe complet sur D plus 1 sommet, c'est un graphe de Ramanujan, mais c'est pas du tout clair qu'il existe des graphes de Ramanujan de taille arbitrairement grande. Et en parallèle, hein, Lubotsky, Philippe Sarnak et Margulis avaient trouvé des techniques pour montrer l'existence de suites de graphes de Ramanujan de suite avec un nombre arbitrairement grand de sommets. Donc avec n qui tend vers l'infini, ils avaient démontré l'existence pour Q, qui est un nombre premier. Et en fait, la terminologie Ramanujan, bon, Ramanujan n'est pas impliqué là-dedans, mais c'est parce que pour démontrer, pour construire ces graphes, ils ont utilisé la résolution de la conjecture de Ramanujan. Ils ont repris la réponse à cette conjecture pour montrer l'existence de ces graphes. Et donc, c'est donc par des travaux de Morgenstern, on sait aussi que de tels graphes existent pour donc là c'est Q égale P, un nombre premier. Et Morgenstern a montré qu'on peut aussi prendre le degré Q, qui est une puissance d'un nombre premier. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas, ça fait déjà des constructions explicites, mais par contre, on ne sait pas si pour un degré arbitraire, il existe des suites de graphes de Ramanujan. Depuis une dizaine d'années, il y a une construction probabiliste qui est due à Marcus Spielman et Srivastava. Donc là, on va dire, les dates sont un peu approximatives parce que c'est les dates de mise sur archive. Donc ils ont montré, c'est une construction probabiliste. De suite de graphes. De Ramanujan. Alors, la raison pour laquelle ça ne répond pas tout à fait à la question que j'ai évoquée de savoir s'il en existe pour tout degré, c'est que leur construction donne des graphes bipartis. Donc des suites avec un nombre de degrés qui tend vers l'infini. Et la nouveauté, c'était que le degré était arbitraire. Et par contre, ils sont dans leur construction, les graphes sont bipartis, hein, ça veut dire qu'on peut les colorier de deux couleurs différentes, de sorte qu'un rouge et un bleu, un rouge soit toujours voisin d'un bleu. Enfin, deux sommets voisins soient de couleurs différentes. Et si un graphe est biparti, on avait dit que, en fait, je ne sais pas si je l'avais vraiment dit explicitement, mais le spectre, il est symétrique par rapport à zéro. Et donc, en particulier, on a non seulement la valeur propre Q plus 1, mais on a aussi moins Q plus 1 dans le spectre. Donc, leurs graphes ne sont pas... Dans la construction de Marcus Spielman et Srivastava, il y a deux valeurs propres de valeur absolue Q plus 1, et par contre tout le reste du spectre est plus petit que 2 racines de Q. Et c'est une construction, alors contrairement aux constructions qui viennent de la théorie des nombres, c'est une construction qui n'est pas très explicite. On prend on définit une certaine manière de prendre des graphes au hasard et on montre que la probabilité d'être de Ramanujan est non nulle. Donc, et ça dit que ça existe. Et donc le théorème dont je veux parler dans ces deux dernières séances, c'est un théorème qui est dû à Joel Friedman. Donc en 2003, ça dit la chose suivante. Donc on prend au hasard un graphe alors dérégulier à n sommets. Alors il y a l'unique contrainte que n fois d doit être pair puisque c'est deux fois le nombre d'arêtes. C'est la seule contrainte. Donc on prend au hasard, faudra que je dise, il y a plusieurs modèles qui sont considérés par Friedman. Je dirais, il faudra que je dise plus en détail les différentes mesures qu'on peut mettre. Alors, si on se donne n'importe quel epsilon, la probabilité que... toutes les valeurs propres non triviales soient plus petites que 2 racines de Q plus epsilon elle tend vers 1 quand elle tend vers l'infini. Donc ce n'est pas tout à fait des graphes de Ramanujan parce qu'on s'autorise un epsilon arbitrairement petit. Et en fait, il donne même... Alors, pour une raison que... Enfin, il faudrait que je lui pose la question. Une raison que je ne sais pas. Dans les articles de Friedman, il n'essaye jamais d'optimiser le epsilon en le faisant tendre vers zéro. Mais par contre, il attache beaucoup d'importance à dire à quelle vitesse ça tend vers 1. Donc, c'est une vitesse polynomiale. Bon, puis, il attache énormément d'importance, en fait, à trouver la valeur de taux qui dépend. Alors, la valeur de taux dépend du modèle prix, mais dans son premier article, il obtenait cette valeur-là. Et bon, ces articles de Friedman n'ont pas été beaucoup lus parce que c'est des choses très longues. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est très long, c'est qu'il consacre énormément d'efforts à essayer de trouver cette valeur-là. Plus récemment, il y a eu une preuve beaucoup plus courte donnée par Bordenave. Là, l'année, c'est à peu près 2017. Donc, quand je dis beaucoup plus courte, au départ, c'était un article de 100 pages, mais qui faisait déjà appel à des résultats qu'il avait démontrés dans un article précédent. Et Bordenave, la preuve, ça fait 25 pages et ça peut se lire indépendamment. Et la preuve de Bordenave, elle est un petit peu apparentée à celle de Friedman, mais voilà, il y a quelques grandes lignes qui ressemblent, mais elle est quand même très différente. Moi, je veux vraiment raconter la preuve de Friedman parce que c'est celle-là finalement qu'on arrive à faire marcher pour l'instant pour des surfaces hyperboliques, alors que celle de Bordenave, c'est beaucoup moins clair comment elle. C'est ce qui peut rester pour les surfaces hyperboliques. Et puis plus récemment, il y a encore une autre preuve qui est de Wang et Yao. Par des techniques encore assez différentes. Eux, c'est des gens qui viennent des matrices aléatoires, qui ont l'habitude de travailler sur les statistiques spectrales de matrices aléatoires. Et ils ont un résultat, en fait, que je ne vais pas énoncer, mais qui porte en fait sur les statistiques spectrales de graphes réguliers aléatoires, et dont une des conséquences, c'est qu'ils retrouvent une preuve de ce résultat avec une vitesse de décroissance qui, je pense, est polynomiale en epsilon. Epsilon, c'est une certaine puissance négative de n. Alors, j'ai une remarque, c'est que de manière déterministe, c'est toujours vrai que sur un graphe régulier, le lambda 2, il est plus grand que 2 racine de Q moins grand O de 1 sur le diamètre du graphe. Ça, c'est ce qui s'appelle, je ne vais pas donner la démonstration, mais c'est ce qui s'appelle la borne de Allon-Boppana.
Excusez-moi.
Oui.
La borne 1 que vous avez écrite, elle ne dépend pas d'epsilon ?
Ça doit être. Non, je pense que c'est juste éventuellement la constante qui peut-être dépend de epsilon. Non, la puissance, c'est un nombre un peu universel et on voit en lisant les articles de Friedman qu'il accorde énormément d'importance en fait à trouver cette puissance. Oui. Et par contre, oui, à l'heure actuelle, c'est pas connu. Il y a beaucoup d'expériences numériques qui sont faites. C'est pas connu si, quand on enlève le epsilon, est-ce qu'il reste une probabilité strictement positive. Enfin, voilà. Il semble que ça va pas numériquement, ça va pas être 1 la probabilité si on enlève le epsilon, mais ça a l'air d'être un nombre strictement positif, assez proche de 1/2, mais pas non plus égal à 1/2. Donc la borne déterministe d'Allon-Boppana, c'est que la deuxième valeur propre lambda 2, elle est toujours plus grande que 2 racine de Q moins quelque chose qui décroît comme l'inverse du diamètre. Et le diamètre d'un graphe, à grand N sommé, ça doit forcément être, ça doit croître comme un certain multiple de log N. Ça, parce que si c'était... Enfin, et puis, vous pouvez même faire l'exercice de trouver la bonne constante. Hein. Si c'était plus petit, en fait, il y aurait... en comptant le nombre de sommets, on pourrait pas avoir n sommets si la constante ici était trop petite. Donc le lambda 2, il est toujours de toute façon proche de 2 racines de plus grande que 2 racines de cube en epsilon, et le résultat donne la borne dans l'autre sens, qu'il est aussi, avec une probabilité proche de 1, il est plus petit que 2 racines de cube plus epsilon. Alors les différents modèles probabilistes que considère Friedman. Alors celui qui traite vraiment en détail, c'est le modèle défini avec des permutations aléatoires. Alors pour ce modèle, il faut que D soit pair. En fait, on tire au hasard D sur 2 permutations aléatoires de l'ensemble des entiers de 1 à n. On les prend chacune uniforme et indépendante. Hein, donc c'est Donc les sommets, ils sont numérotés de 1 à grand n, et on prend d sur 2. Donc voilà, on est dans l'ensemble des permutations de cet ensemble, qui est un ensemble fini. On met la proba uniforme et puis on prend d sur 2 permutations aléatoires. Et après, on met une arête entre x et chacune des images, on met une arête orientée. Enfin, oui. On met une arête entre x et chacune de ces images par une des permutations, et puis aussi par les inverses. Donc on a notre ensemble 1n. Et puis à chaque fois qu'on prend une permutation aléatoire, on trace des arêtes entre un point et son image. Alors on voit qu'avec cette définition, moi j'avais travaillé avec une hypothèse un peu simplificatrice, qu'il peut y avoir qu'une seule arête entre deux sommets, et puis qu'il ne peut pas y avoir une arête qui part d'un sommet et qui revient. Là, cette définition, elle ne respecte pas ça. On peut avoir plusieurs arêtes qui joignent le même sommet, puis on peut aussi avoir... On peut aussi avoir une arête qui part d'un sommet et qui revient. C'est pas très gênant, parce qu'on peut toujours après, si on veut, on peut toujours conditionner. On peut calculer la probabilité d'avoir plusieurs arêtes qui joignent deux sommets, ou d'avoir des boucles comme ça. Et on peut toujours. On voit que cette probabilité-là, elle est strictement comprise entre 0 et 1. Donc on peut toujours conditionner. Mais les calculs sont beaucoup plus simples en fait si on prend vraiment le modèle en entier avec tous les graphes qu'on obtient. Et ce qu'on voit aussi quand on travaille avec ce genre de modèle, c'est que c'est plus... J'avais évité de donner la vraie définition d'un graphe. J'avais dit qu'une arête, c'est une paire de sommets. Là, c'est mieux de travailler avec la définition un peu propre d'un graphe. Donc si on veut travailler proprement en autorisant plusieurs arêtes entre deux sommets, ou en autorisant des boucles, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'un graphe, c'est des sommets, un ensemble d'arêtes orientées, une application qui va de E dans V croix V, hein, qui a donc... à une arête orientée associe une paire de sommets, et puis une involution de V, une involution de E donc le X on l'appelle l'origine de E, et le Y on l'appelle le terminus de E, et puis une involution
de une involution de l'ensemble des de l'ensemble e tel que l'origine de e moins 1. Donc l'involution, je vais la noter. Faut la comprendre comme étant inverser le sens des arêtes, et puis on demande que cette involution elle satisfasse que l'origine de E-1, c'est le terminus de E. Ça, c'est la vraie définition d'un graphe qui autorise toutes les choses que j'avais évitées jusqu'à présent. Et donc, avec cette définition, hein, l'ensemble des arêtes orientées, c'est, faut pas prendre seulement les paires de sommets, mais il faut aussi numéroter les arêtes par des permutations, parce qu'il faut, il faut dire que pi de x égale y. Donc en fait, chaque arête, les arêtes, elles sont distinguées. Quand il y a plusieurs arêtes qui joignent les mêmes sommets, elles sont distinguées par une numérotation par des permutations. Et ça permet de... Tout ce que j'ai dit à présent était vrai, mais en travaillant avec cette définition de graphe. Et donc la matrice d'adjacence de... Une fois qu'on a pris ces permutations au hasard, la matrice d'adjacence, c'est la somme pour i égale 1 à d sur 2. Et je mets un symbole de Kronecker, soit si y est égal à pi i de x, soit si y égale pi i moins 1 de x. Et donc ça fait bien un graphe D régulier, et D est pair. Alors ça c'est vraiment le modèle pour lequel Friedman il développe tous ses calculs. Après il y a des variantes, il y a le même mode. Alors celui-là, c'est pas la notation vraiment universelle, mais il l'appelle GND. Il y a le modèle qu'il appelle HND, qui, je suppose que le H, c'est comme hamiltonien. C'est pareil, on part de permutations aléatoires, mais on suppose que chacune des permutations, c'est un cycle sur N, c'est un cycle sur N sommets. C'est même définition, mais les pi i doivent être des cycles de longueur N. Voilà, après il y a un troisième modèle qui s'appelle IND. Alors celui-là, il faut que N soit pair. Donc c'est pareil, on part des entiers de 1 à N. Et ce qu'on va tirer au hasard, c'est pas des permutations, c'est des... Alors en anglais, c'est perfect matching. Des appariements parfaits. Donc, un appariement, c'est une manière, un mariage, peut-être un mariage parfait. C'est une manière de apparier les sommets comme ça, deux à deux. Donc, c'est un appariement. On en prend D au hasard et on fait la même chose. Donc on tire au hasard D. Donc là, maintenant, dans les deux premiers modèles, D était pair, alors que là, D, le degré, il peut être pair ou impair. Mais par contre, on oblige grand N à être pair. Donc ça, c'est vraiment les trois modèles pour lesquels la méthode s'applique. Après, je vais quand même citer d'autres modèles qui sont traités, en particulier le modèle que traite Bordenave, n'est pas le même. Bordenave, il travaille avec ce qu'on appelle le modèle de configuration. Donc, dans le modèle de configuration, on part de n dessins, grand n. Donc là, j'ai fait le dessin avec d égale 3. Donc on prend grand n sommet, et de chaque, à partir de chaque sommet, on met une demi-arête. Et après, on les, pareil, on, maintenant, on fait aussi des perfect matching, des appariements, mais entre demi-arêtes. Donc on décide au hasard. On décide au hasard que celle-ci va avec celle-ci, que celle-ci va avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, etc. Donc là, la preuve de Bordenave, elle est rédigée pour ce modèle-là. Il y a un autre modèle qui est peut-être le plus facile à énoncer, mais finalement, pour les calculs, c'est peut-être le moins pratique. C'est juste de mettre la loi uniforme sur tous les graphes possibles, sur tous les graphes possibles qui ont n arêtes et qui sont déréguliers. Et on prend uniformément un graphe au hasard. Alors, calculer directement sur ce modèle-là, ce n'est pas pratique du tout, mais par contre, on peut montrer que ce modèle-là, c'est le même que le précédent, conditionné à ne pas avoir de boucles et d'arêtes multiples si on a décidé que ça ne nous plaisait pas d'avoir des boucles et des arêtes multiples. Donc en fait, quand on s'intéresse à la loi uniforme, en fait, dans les articles que j'ai consultés, souvent les calculs sont faits pour ce modèle-là, et après on dit éventuellement qu'on conditionne par rapport au fait de pas avoir de boucles ou d'arêtes multiples.
Pardon ?
Oui ?
Tous ces modèles, ils permettent aussi de construire des surfaces hyperboliques aléatoires ou...
Non, là, enfin, pour construire une surface hyperbolique aléatoire, faudra venir l'an prochain, parce que c'est pas du tout évident à partir de ces modèles de dire on fait la même chose pour construire une surface aléatoire. Enfin, on peut, disons qu'il y en a certains où on peut avoir envie. Et il y a le dernier modèle, peut-être, que je veux rajouter à la liste, qui est assez différent. C'est ce qui s'appelle les revêtements aléatoires. Et un petit peu différent, du reste. Alors, les revêtements aléatoires, ils sont traités pour des graphes réguliers. Ils sont traités dans une série d'articles de Friedman et Kohler. Qu'ils ont commencé à partir de 2018, je pense. Qui sont, j'ai l'impression, pas publiés. Et puis, pour des graphes plus généraux, en fait, c'est un résultat assez célèbre et assez récent de Bordenave et Collins. Parce qu'on, en degré quelconque, donc le revêtement aléatoire, c'est qu'en fait on part d'un graphe fini qui a priori n'a pas de raison d'être régulier. Il est régulier dans les travaux de Friedman et Kohler. Donc on part d'un graphe quelconque, et puis on décide qu'on va prendre au hasard un revêtement fini de degré n ce graphe. Étendre aussi n vers l'infini, et la manière dont on prend au hasard un revêtement fini de degré n, c'est que on prend n, on prend grand n copies de ce même graphe, donc on prend n copies, Et puis, pour chaque arête, on tire une permutation aléatoire et on dit comment on échange les origines et les terminus de cette arête. Donc, voilà, pour chaque arête, on prend une permutation aléatoire et puis cette permutation nous dit comment on va échanger les arêtes. Et pour chacun de ces modes... Friedman, il a un résultat de même nature pour chacun de ces modèles, à part pour... il a pas fait le modèle de configuration et non plus la loi uniforme. Et à chaque fois, il attache vraiment énormément d'importance à calculer le taux, et le taux peut dépendre du modèle. Alors, avant de... Ah oui, une chose qu'on peut déjà calculer, c'est... Je vais toujours raisonner sur le premier modèle, celui avec les permutations, mais cette propriété, elle est vraie pour chacun de ces modèles, c'est que la probabilité que le graphe ne soit pas connexe, quand on fait... tous ces graphes aléatoires ne sont pas nécessairement connexes. Donc ça, je vais calculer avec le modèle GND. Avec le modèle GND, ça va être grand taux de 1 sur n à la puissance, ça doit être d moins 1, quelque chose comme ça. Ou d sur 2 peut-être. Et ça, c'est un petit exercice de dénombrement, mais ça veut dire... Ce qu'il faut calculer, c'est la probabilité d'avoir... C'est la probabilité que notre ensemble de sommets il puisse être partitionné en un ensemble A et un ensemble B, entre lesquels il n'y a pas d'arête. Donc je vais appeler E de AB, c'est l'ensemble des arêtes. Voilà. Si j'ai une partition de l'ensemble des sommets, je vais appeler E de AB l'ensemble des arêtes qui permettent de passer de A à B. Et donc là, je veux que mon ensemble de sommets soit partitionné en deux ensembles d'arêtes, deux ensembles de sommets tels que il n'y a aucune arête entre A et B. Et puis non vide. Et donc ça, si on veut le calculer, on peut déjà... Enfin, on va faire juste une borne supérieure. On pourrait même faire plus précis. On peut même, en fait, montrer que la constante, c'est vraiment 1 devant, mais je vais juste faire une borne supérieure. On va sommer sur tous les cardinales possibles. Le cardinal de A, il est... Donc, petit k, c'est le cardinal de A. Il peut varier entre 1 et n. Mais je vais... Comme c'est symétrique en A et B, je vais m'arrêter à n sur 2. Éventuellement, je vais mettre un... Ouais, je ne sais même pas s'il y a besoin. Et puis ensuite, comme borne supérieure, il faut... Il y a k parmi n choix possibles pour A. A, c'est un ensemble. Ah, donc A, c'est ce que j'appelle petit k, c'est le cardinal de A. Donc il y a k parmi n choix possibles pour A. Et ensuite, une fois que j'ai choisi l'ensemble A et l'ensemble B, il faut que je compte toutes les permutations qui préservent A et qui préservent B. Et là, ça va me faire... Donc ça va faire factoriel k sur factoriel n moins k. Et puis comme je... qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc pour chaque choix. Ah oui, ça, ça, Pour chaque, ça c'est la probabilité. Pour chacune des D sur 2 permutations, ça c'est la probabilité qu'elle préserve A et qu'elle préserve B. Et puis comme j'ai D sur 2 permutations indépendantes, j'élève tout. J'élève tout à la puissance D sur 2. Donc là, ma borne, c'est somme pour K allant de 1 à N sur 2. De, finalement, c'est K parmi N à la puissance 1 moins D sur 2. Alors, à K fixé, K parmi N, hein, c'est équivalent à une constante près, c'est équivalent à N à la puissance K. Donc là, le premier terme, en fait, la contribution, hein, c'est essentiellement le premier terme qui va donner du 1 sur N à la puissance D sur 2 moins 1. Et puis les autres termes, en fait, il faut montrer qu'ils sont d'ordre inférieur. Donc je peux arrêter la somme à K0. Donc là, chacun de ces termes, ça c'est n à la puissance k à une constante près, c'est n à la puissance k 1 moins d sur 2. Et puis après, une fois que k est suffisamment grand, en fait, il faut juste montrer qu'une fois que k est suffisamment grand, c'est négligeable par rapport au premier terme. Et puis en fait, pour les termes supérieurs, on peut utiliser la formule de Stirling pour donc ce qui va sortir pour les termes suffisamment grands, en fait, en appliquant la formule de Stirling, c'est la fonctionnel d'entropie. Alors il y a peut-être un racine de grand N qui sort dans Stirling. Et là, mes petits. Voilà. Et ça, tout ça, c'est à la puissance D sur 2. Et H de X. Alors, c'est peut-être. Alors, il y a un moins quelque part. Non, c'est 1 moins D sur 2. Donc en appliquant un Stirling, en fait, on peut majorer chacun des termes en utilisant cette fonction d'entropie, qui est une fonction, là, on peut utiliser le fait que cette fonction, elle est symétrique par rapport à 1,5, et puis entre 0 et 1,5, elle est croissante, ce qui fait que le terme, ça, je me sers juste de ça pour dire que le terme dominant, c'est celui pour K0. Donc ce terme-là, en fait, je vais juste dire qu'il y a n termes dans la somme. Donc et puis, c'est plus petit que n h k0 sur antenne. Et tout ça, c'est fois 1 moins 2 sur 2.
Le truc, terme dominant et le premier terme, ça on sait déjà
C'est juste, non, là, je suis juste en train de dire que tout ce qui est à partir d'un certain rang, c'est parce que j'ai quand même grand N termes dans la somme, et je veux juste justifier le fait que tout ce qui est à partir d'un K0 assez grand, c'est effectivement. C'est, je veux juste vérifier que le fait d'avoir grand N termes dans la somme ne m'embête pas.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le fait que K0 parmi N est le terme dominant, tous les termes, ça, on sait aussi des coefficients
binomiaux. Ouais, ouais. Oui, moi, j'aime toujours bien passer au continu, mais effectivement, on n'avait peut-être pas besoin de faire avec l'entropie. En tout cas, faut juste un moment justifier que dans cette somme, c'est le K0 le plus petit qui donne la contribution dominante. Et puis, du coup, voilà, c'est. Enfin, en tout cas, voilà, même. je perds éventuellement une puissance fixe de n avec le nombre de termes dans la somme, et puis le reste, c'est n puissance k0, 1, moins d sur 2. Et puis si j'ai choisi k0 peut-être égal à 3, enfin à 3 ou à 4, ça suffit à dire que c'est négligeable devant le terme dominant. Donc mes graphes ne sont pas connexes. En fait, on pourrait aussi calculer la... Oui, ça c'est... Je ne vais pas le faire, mais on pourrait aussi évaluer la probabilité qu'il ne soit pas connexe, et elle n'est pas nulle. Hein. Et elle est polynomiale en... C'est peut-être 1 sur n. Donc la probabilité qu'il ne soit pas... Oui, ben, en fait, c'est la probabilité qu'il ne soit pas connexe, c'est aussi donné par ça. Donc il y a aussi une probabilité non nulle qu'il ne soit pas connexe et qui pose en fait des problèmes dans toute l'approche qu'on va voir. C'est que... Il y a une probabilité, si le graphe n'est pas connexe, ça veut dire que le lambda 2 il est égal au lambda 1. Et en fait, cet événement, il apparaît avec une probabilité petite mais non nulle, et c'est source de problèmes dans toute la méthode. En fait, hein. Donc, il y a plusieurs endroits dans la méthode où il faut enlever des événements de petite probabilité, mais qui sont responsables de problèmes dans certaines estimations. Et en fait, ben, en modifiant un tout petit peu cette preuve, ça je vous laisse le faire, mais il n'y a pas grand-chose à modifier, on peut montrer quelque chose d'un peu plus profond que juste le fait que ça soit connexe, c'est déjà les distances d'un trou spectral. On peut montrer qu'il existe un état positif, tel que la probabilité d'avoir une décomposition de 1n, donc une partition de 1n en deux ensembles disjoints de sommet et tel que... Alors maintenant, je ne vais pas demander... Avant, je demandais que E de AB soit vide, donc vraiment les deux ensembles soient disjoints. Là, je vais juste demander, je vais faire intervenir ce qui s'appelle la constante de Chiger. Donc le rapport entre le nombre... Ça, c'est le nombre d'arêtes qui joignent A et B. Et puis, je veux renormaliser en divisant par le cardinal du plus petit des deux ensembles. Donc juste en perturbant un tout petit peu le dénombrement que je viens de faire, on peut montrer que si on prend état assez petit, cette probabilité, elle est majorée par la même chose, en fait. Parce qu'en fait, le dénombrement pour les premiers termes, il reste identique. Et puis pour les termes suivants, il y a juste une petite puissance de n qui se rajoute. Qui dépend de état, mais si état est assez petit, ça c'est... Donc ça c'est en modifiant légèrement la preuve précédente. Et ça dit quelque chose sur la constante de Chiger. Du graphe. Alors la constante de Chiger, je ne sais pas pourquoi on la note par la lettre H. Ce qui n'est pas très pratique parce que bon, j'ai l'habitude de travailler avec l'entropie, mais bon, c'est la constante de Chiger d'un graphe. C'est justement, on regarde toutes les manières, donc on cherche... On regarde toutes les manières de décomposer l'ensemble G, c'est... des sommets et des arêtes. On regarde toutes les manières de partitionner l'ensemble des sommets en deux. Et pour chacune de ces partitions, on fait le rapport entre le nombre d'arêtes qui joignent A et B et puis le plus petit des deux cardinaux. Et puis après, on prend... Non, c'est le max. Non, c'est le min. Donc on prend le min entre tout, on cherche à minimiser cette quantité. Donc ça, c'est la même chose qu'on a calculé là, c'est la probabilité que la constante de Schlieger soit plus petite que eta. Donc pour un certain choix de eta, on peut montrer que la probabilité que cette constante de Schlieger soit trop petite tend vers zéro à une certaine vitesse. Et ça, si on connaît l'inégalité de Schlieger, ça nous dit déjà quelque chose sur lambda 2. Alors, c'est l'inégalité de Schlieger, elle porte sur le trou spectral. Donc le trou spectral, c'est la différence. Alors, ça va nous dire, voilà, c'est la différence entre la valeur propre triviale, qui est D, autrement dit Q plus 1, et puis la valeur propre suivante. Alors ça, c'est toujours plus grand que la constante de Schlieger au carré sur 2D. Et puis bon, ça c'est la partie qu'on va utiliser. Et puis c'est aussi plus petit que deux fois la constante de Schlieger. Mais le fait de savoir que la constante de Schlieger est grande, donc la probabilité proche de 1, la constante de Schlieger est loin de 0, ça nous dit aussi quelque chose sur le trou spectral. Donc comme conséquence, c'est qu'il existe un état prime. Une fois qu'on, voilà, nous ce qu'on a montré là, c'est qu'avec probabilité qui tend vers 1, le H il est plus grand que eta. Et donc il y a un eta prime tel que la probabilité que lambda 2 soit plus petit que d moins eta prime tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc ça dit déjà qu'avec une probabilité proche de 1, il y a un trou spectral, et donc le résultat de Friedman. Et donc ça se fait par dénombrement, et puis en utilisant l'inégalité de Schlieger, mais le résultat de Friedman va beaucoup plus loin, puisque nous dit que ce trou spectral est le meilleur qu'on puisse espérer. Alors, je vais commencer à expliquer la preuve du résultat de Friedman. Je ne suis pas exactement sa preuve à lui. Ce que je vais raconter, c'est plutôt... C'est un mélange entre ce que je suis en train de faire sur les surfaces hyperboliques aléatoires et sa preuve à lui. Autrement dit, c'est la manière dont je comprends sa preuve après avoir travaillé sur les surfaces hyperboliques aléatoires. Et puis j'ai aussi... son article est assez dur à lire pour plusieurs raisons. D'une part, il a vraiment cherché à optimiser tout un tas de degrés de polynômes où il a vraiment cherché à tout optimiser, et ça rallonge beaucoup. Et puis une autre raison peut-être, c'est qu'il utilise à pas mal d'endroits une terminologie venant de l'informatique théorique et qui ne rend pas forcément très facile le fait de comprendre les définitions. Donc je vais utiliser ce qui s'appelle la méthode des traces, mais pas exactement la manière dont il l'a fait lui, mais bon, c'est... Disons que c'est une variante. Donc on part de la formule des traces qu'on avait vue, hein, qui est quelque chose qui est vrai pour un graphe déterministe. Donc je rappelle que lambda j, c'est q puissance 1 demi plus isj plus q puissance 1 demi moins isj. Et là, la formule qu'on avait vue, c'était somme... C'était que si on se donne un entier K, la somme des Q puissance K, facteur de 1 demi plus ou moins I, Sj, est égale à somme sur toutes les géodésiques périodiques de longueur K. Et chaque géodésique périodique apparaît avec un poids qui est sa plus petite période, puisqu'une géodésique périodique, elle peut être parcourue plusieurs fois. Et là, le poids qui apparaît, c'est la plus petite des périodes possibles. Là, il y a toutes les géodésiques périodiques, même celles qui sont parcourues un grand nombre de fois, mais on doit par contre le poids, c'est juste le nombre. Une géodésique périodique, c'est juste une succession d'arêtes avec vous vous souvenez, la condition que... Une arête ne peut pas être suivie par son inverse. Et là, le poids qui apparaît, c'est le nombre d'arêtes dans la géodésique, le nombre d'arêtes distinctes. Et puis, il y a le terme topologique qui est proportionnel à grand N, qui était, si je ne me trompe pas, mais... Donc, il venait des... Donc là, c'est toutes les valeurs propres de la matrice de Hashimoto, c'est toutes les valeurs propres qui viennent du spectre du Laplacien. Et vous vous souvenez qu'il y avait aussi plus 1 et moins 1, qui étaient les valeurs propres topologiques. Et auparavant, je les écrivais de ce côté-là, mais là, je vais les faire passer de l'autre côté. Donc, il y a, c'est 1 plus... Voilà, c'est juste... en fait, on avait obtenu cette formule en calculant la trace, en calculant de manière la trace de la matrice de Hashimoto. Et il y avait les valeurs propres 1 et moins 1 qui avaient une interprétation topologique, que je vais faire passer de l'autre côté. Et puis peut-être ce que je vais faire, là, il y a le Q puissance K sur 2 qui se met en facteur. Je vais plutôt l'écrire de l'autre côté. Donc je vais plutôt écrire... Et là, je vais le faire passer là. Là, il y a Q puissance... Alors, soit j'écris Q puissance moins K sur 2, mais comme K, c'est la longueur de la géodésique, je peux aussi écrire Q puissance moins L de gamma sur 2. Et puis ici, j'ai Q puissance moins K sur 2. Puis je vais faire... En fait, je vais faire comme ce que... qu'on avait vu sur les surfaces hyperboliques, qu'on avait vu la formule des traces de Selberg, on l'avait écrite sous forme de distribution, mais on l'avait écrite aussi avec une fonction test. Ça peut paraître un petit peu... Là, j'ai oublié le cas. Je vais introduire une fonction test, qui va m'être utile par la suite. Hein, je vais prendre f, une fonction définie sur les entiers. Et puis, elle va être paire. Et je vais faire somme des f de k q puissance plus ou moins ISJ k, et puis je vais aussi sommer sur k. Alors elle va être... je vais supposer qu'elle est portée par un intervalle borné, hein, donc ça, la somme sur k est finie. Et ça va me faire... somme sur gamma. Alors comment je vais l'écrire? Donc je vais avoir f de la longueur exponentielle moins la longueur sur 2. Là c'est... Voilà. Et puis là je vais avoir somme... Alors ici, on va s'intéresser qu'à des fonctions qui sont portées par les entiers pairs. Donc là, de toute façon, je vais supposer tout de suite que je somme uniquement sur les entiers pairs. Et là, ce qui va sortir, c'est f de 2m q puissance moins m. Alors ici, ce qu'on voit, ça, je vais appeler ça f chapeau de... Ça, je vais appeler ça F chapeau de SJ. Il est possible que j'oublie parfois des coefficients 2 parce que, bon, c'est ça. Il y a peut-être des coefficients 2 qui manquent un petit peu partout. Là, par exemple, dans la définition de géodésique périodique, comme je les avais définis en calculant la trace de la matrice de Hashimoto, une géodésique et la géodésique dans l'autre sens, elles doivent tous les deux compter. Bon, il y a peut-être des coefficients 2 qui sont oubliés à certains endroits, mais qui n'ont pas d'importance dans cette preuve. Et puis je vais choisir f qui va être à support. Dans un intervalle moins LL. Et puis je veux aussi supposer qu'elle soit à support dans les entiers pairs. Donc je vais supposer en particulier L, ça va être un entier pair. Et je vais supposer que F chapeau. Donc F chapeau, c'est une fonction qui est.
c'est des, donc F chapeau de S, c'est somme des F de K Q puissance ISJK ISK. Et je vais supposer que F chapeau est positif, ça va être assez important. En fait, je veux que tous les termes de cette somme soient positifs, et donc, par exemple, on peut écrire un exemple explicite, hein. Je vais prendre F chapeau de S, ça doit marcher de prendre... Et puis, elle est périodique, c'est une fonction qui est périodique, hein. Elle est, par définition, elle est de pi sur L, sur log de Q périodique. On va prendre par exemple 2 plus Q puissance IS plus Q. Enfin, oui. Au départ, je vais partir d'une fonction, de cette fonction-là. Et puis, je vais faire une homothétie pour qu'elle se retrouve à support dans moins LL. Donc, c'est la transformée de Fourier, enfin, c'est des fonctions périodiques. En F chapeau, je vais faire une homothétie de L, ce qui revient à regarder. Ça, c'est F, je pense que je veux. Oui, ça, c'est. Non. Non, non, c'est bien F chapeau. Et ce qui fait que F, au départ, c'est deux fois la masse de Dirac en 0 plus la masse de Dirac en 1 plus la masse de Dirac en moins 1. Et puis, je vais la dilater. Je vais la dilater de L. Voilà, je vais regarder, en fait, je vais dans ma formule des traces, je vais mettre une fonction F indice L en dilatant tout. Voilà. Donc, sur les géodésiques, je suis en train de sommer sur toutes les géodésiques qui ont une longueur plus petite que L. Et puis, par contre, en fréquence, voilà. Et ce qu'on va utiliser, donc l'idée de... un peu le point de départ de cette méthode des traces, c'est le fait que les valeurs propres, qui sont celles qu'on n'aime pas, celles qui sont plus grandes que 2 racines de Q, elles correspondent aux S qui sont imaginaires purs. Et pour S imaginaire pur, en fait, là, dans la transformée de Fourier, pour S imaginaire pur, c'est plus des sinus et des cosinus qui sortent, c'est des cosinus hyperboliques. Et donc, les valeurs propres... les valeurs propres non tempérées elles sont associées à une croissance exponentielle de FL chapeau de SJ quand L tend vers l'infini. L, ça va être un paramètre qu'il va falloir choisir plus tard, mais qu'on va avoir envie de faire tendre vers l'infini, parce que, en fait, à partir du moment où là, on a des valeurs propres non tempérées, cette transformée de Fourier, quand L est grand, ça crée de la croissance exponentielle. Alors, on peut mettre ça sous forme d'un lemme. Alors, je vais... ça, je vais appeler ça le terme géométrique de la formule des traces. Donc, le lemme, c'est que si le... pour l'instant, c'est un raisonnement qu'on peut faire pour une suite de graphes déterministes. C'est seulement après, hein, qu'on passera à des graphes aléatoires. C'est que si je suis capable de d'avoir une borne du côté géométrique qui est plus petite que Q puissance alpha L. Alors forcément, les parties imaginaires des SJ sont toutes, si je ne dis pas de bêtises, plus petites que alpha. Donc si je prends un alpha, un nombre réel, un alpha positif, si j'arrive à contrôler suffisamment bien la croissance des géodésiques fermées pour dire que le côté géométrique est 3 en plus en Q puissance alpha L, alors ça veut forcément dire que les parties imaginaires des SJ sont plus petites que alpha, ce qui correspond à dire que les valeurs propres correspondantes sont plus petites que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha. Donc tout le jeu, en fait, ça va être d'essayer de contrôler cette somme sur les géodésiques fermées. Alors il va y avoir un paramètre à choisir qui va être grand L, on va voir qu'il forcément il va quand même falloir qu'il tende vers l'infini, mais ça va être d'essayer pour un alpha aussi petit que possible de contrôler cette somme par un Q puissance alpha L avec le alpha le plus petit possible. Et ça, si je sais montrer ça pour alpha, ça me dit que les lambdas J sont toutes plus petites que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha. Alors pourquoi c'est important de prendre F chapeau positif pour pouvoir dire que chacun de ces termes-là est positif. Donc pour pouvoir dire que si je sais contrôler cette somme, je sais contrôler chacun des termes. D'accord ? Donc là, ça c'est un énoncé déterministe et en version probabiliste. Ce qu'on va dire, c'est que la probabilité, donc on se donne un alpha, la probabilité que la probabilité d'avoir une valeur propre trop grande, donc plus grande que 2 racine de Q cosinus hyperbolique alpha, c'est plus petit que la probabilité que le côté géométrique de la formule des traces soit plus petit que Q puissance alpha L. Ça, c'est juste, j'ai juste traduit par une inclusion l'énoncé précédent pour dire qu'une probabilité est majorée par l'autre. Et ça, c'est, là, je fais Markov, l'inégalité de Markov, qui me dit que ça, c'est plus petit que l'espérance du côté géométrique de la formule des traces divisé par Q puissance alpha L. Donc là, dans cette méthode des traces, l'idée, c'est d'essayer de calculer l'espérance de ce terme-là et de montrer qu'il croît sous-exponentiellement vite, de sorte à montrer que ce quotient-là tend vers zéro. Et donc, plus on arrive à prendre alpha petit, plus on se rapproche de la borne optimale qui est 2 racines de Q. Alors oui, comment on va choisir L ? On veut prendre L qui tend vers l'infini, mais il y a un terme, lui, qui est le terme topologique de la formule des traces. Lui, il est déterministe, il sera toujours là, et on sait qu'il croît à peu près comme N, comme grand N. Donc il y aura toujours un terme qui sera d'ordre grand N. Donc, à cause du terme topologique qui est d'ordre grand N, si on veut
si on veut espérer montrer que cette espérance divisée par Q puissance alpha L tend vers 0, on est limité on aura toujours de toute façon besoin de prendre grand L assez grand pour que le terme topologique soit de toute façon plus petit que la bande qu'on espère. Donc ça me dit que je dois prendre L au minimum qui est au minimum logarithme de n en base q fois divisé par alpha. Donc j'ai envie de prendre L le plus petit possible parce qu'on voit bien que si L est grand, donc là c'est une somme, j'ai dit c'est une somme sur toutes les géodésiques fermées de longueur plus petite que L. Donc si L est grand, plus L est grand, plus j'aurai de termes dans cette somme, donc plus je serai embêté pour calculer cette espérance. Mais la méthode des traces nous limite. On doit prendre L au moins log n sur alpha. Et alors pour terminer aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu. Donc après, maintenant, il faut savoir calculer l'espérance. Il faut savoir calculer l'espérance de ce terme-là. Et c'est là que le calcul est spécifique pour chaque modèle probabiliste. Et je vais juste avoir le temps de dire un petit mot, mais on continuera ça la prochaine fois. Donc les calculs, comment Friedman mène les calculs dans le modèle de permutation. Donc on va se donner un alphabet donc ça va être des lettres. Et les lettres de l'alphabet, c'est les permutations qu'on est censé prendre au hasard et leurs inverses. Donc pi1, pi1 moins 1, pi2, pi2 moins 1, pi d sur 2, pi d sur 2 moins 1. Et puis ce qu'on peut appeler, alors je ne sais plus s'il donne un nom, mais j'ai oublié, on va appeler ça peut-être une configuration. C'est une paire formée de un mot de longueur k sur notre alphabet, et puis, alors je reprends ces notations, donc W c'est un mot de longueur k sur l'alphabet grand pi. Donc c'est un mot en ces permutations-là. Et puis, on va tout de suite demander que le mot soit réduit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire suivre une permutation par son inverse. Mot de longueur k sur l'alphabet et puis t c'est k plus 1 entier. Enfin, je ne fais pas tout à fait comme Friedman, donc comme moi je vais compter que des trajectoires périodiques, j'ai effectivement k plus 1 entier, mais je vais demander que le dernier soit égal au premier. On peut donner une définition plus générale, mais c'est k plus 1 entier dans 1. Je vais tout de suite demander que le mot soit réduit ou irréductible, je pense. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de faire suivre une permutation par son inverse. Ça, c'est parce que je veux compter les géodésiques à la fin. Et ce que Friedman appelle P du mot W et de T,
c'est la probabilité. Que, alors, que pi de ti égale ti plus 1. Donc on s'est donné, voilà, on s'est donné, donc le mot, on va l'écrire W, c'est sigma 0, alors, oui, c'est comme ça. Sigma k moins 1. Enfin, non, c'est un mot. Et chacune des lettres du mot, c'est une des permutations. Et on veut que, en faisant cette succession de permutations, on voit apparaître un chemin sur le graphe et que ce chemin, il commence en t0. Ensuite, en suivant la permutation sigma, en suivant l'arête, en suivant une arête numérotée sigma 0, on arrive en T1. Ensuite, en suivant une arête numérotée sigma 1, on arrive en T2, etc. Alors, il se peut. Voilà. Ensuite, en suivant une arête numérotée sigma 2, on arrive en T3, etc. Il se peut que les TI ne soient pas distincts, auquel cas, on a un chemin qui n'est pas simple, hein, qui peut se recouper. Mais voilà, et cette chose-là, elle se calcule. Enfin, cette probabilité, c'est simplement c'est un produit de coefficients binomiaux. Alors, ouais, ça c'est. Il y a des pi qui. Bon, ça c'est les notations de l'article d'origine. Il y a des pi qui sont des permutations, et ça c'est un produit. En fait, pour chacune des le fait d'assigner pi de ti, ça définit un certain nombre de conditions sur chacune des permutations. Et le nombre de ces conditions dépend en fait de savoir si les ti sont tous distincts, etc. Donc, je vais appeler ai le nombre de conditions qu'on a mis sur pi ce qui sort, c'est factoriel n moins ai, et ça c'est le grand n. Sur factoriel n. Donc ai, c'est le nombre de conditions qu'on a imposées sur la permutation numéro i. Donc le ai dépend à la fois du mot et puis du chemin qu'on s'était imposé à l'avance. Peut-être je vais m'arrêter juste en énonçant alors il y a des conditions d'admissibilité que j'écris pas, il y a certaines suites de lettres qui sont impossibles, parce que si par exemple pi i elle apparaît plusieurs fois dans le mot et que ti aussi apparaît plusieurs fois, on voit qu'il y a certaines paires w qui sont impossibles, hein. Donc il y a une liste de quelques conditions d'admissibilité à satisfaire, mais que je ne vais pas écrire. Et puis il faut que on va se restreindre tout le temps à des mots qui sont réduits, comme j'ai dit. Ça c'est parce qu'on veut compter que des chemins sans retour, donc des chemins géodésiques. Alors la proposition, c'est que si je vais appeler. Voilà, c'est peut-être une. Ce que je vais appeler E sim, ça doit être E comme espérance, je suppose. Je fais la somme de toutes les probabilités associées au mot W et pour des chemins S, où S est équivalent à T. Et on va dire qu'un chemin S. Donc un n-uplé S est équivalent au n-uplé d'origine T s'ils peuvent être envoyés l'un sur l'autre par une permutation. Donc c'est juste une numérotation. Cette relation d'équivalence, c'est juste dire que le vecteur S est égal au vecteur T modulo une permutation, donc un changement de numérotation des sommets. Donc là, en fait, tous ces termes, toutes ces valeurs-là ont exactement la même valeur. Hein, donc c'est à chaque fois j'ai produit. Chacune de ces probabilités est la même et le nombre de termes dans la somme, c'est le nombre de, d'éléments distincts, c'est le nombre d'entrées distinctes de ce vecteur. Donc c'est le nombre finalement, quand je me donne un vecteur T, ça me donne un certain nombre de sommets de mon graphe, c'est le nombre de sommets distincts. Donc là, ce qui sort, c'est n, n-1, n-v, plus 1. V, c'est le cardinal de l'ensemble T0, TK. Alors ça, faut, bon, on continuera ça la prochaine fois. Je veux juste faire remarquer quelque chose qui va parler à un certain nombre d'entre vous, c'est que si je regarde maintenant l'asymptotique de ça quand n tend vers l'infini. Donc en fait, une paire formée par un mot et un vecteur T, ça me dessine un chemin, et ce chemin remplit un graphe. Donc le V là, c'est le nombre de sommets du graphe, et AI, donc si j'appelle A, A c'est la somme des AI. Ce A là, ça va être le nombre d'arêtes du graphe, parce que c'est le nombre, j'ai dit que AI c'était le nombre de conditions imposées pour chaque permutation, mais si je somme tout ça, c'est juste le nombre d'arêtes distinctes du graphe. Et là, si on voit, mais on refera ça la prochaine fois, c'est équivalent à n puissance v moins somme des i. Si je regarde juste les termes dominants de chacun. Et quand j'ai un graphe, hein, si je fais nombre de sommets moins nombre d'arêtes, c'est ce qu'on avait appelé le rang cyclique. Enfin, peut-être à plus ou moins 1. Donc on voit que les graphes, quand on va calculer l'espérance du terme géométrique de la formule des traces, les seules géodésiques qui vont vraiment contribuer à l'ordre 0, c'est celles pour lesquelles V égale A, c'est-à-dire les géodésiques simples. Hein. Elles vont donner, quand on va calculer l'espérance du terme géométrique, les géodésiques simples, elles vont donner une contribution non nulle, et les autres géodésiques, elles vont contribuer, mais à des termes inférieurs en n. Voilà, et donc on continuera là-dessus. Ce dénombrement d'origine, c'est vraiment le point de départ du travail de Friedman, et on terminera ça. On continuera ça la prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.